Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi. Jean-Claude Gaudin, menacé de procès, le parquet financier veut faire juger l'ancien maire de Marseille pour détournement de fonds publics, emploi présumé fictif et autres jours de repos généreusement consentis aux fonctionnaires municipaux. Les vaccins et la double question de la transparence scientifique et financière. Nous verrons ce que l'on sait des contrats passés entre les labos et la Commission européenne. Et sur le plan scientifique, invité d'Europe Midi, le professeur Christian Bréchot, ancien patron de l'INSERM et de l'Institut Pasteur. Comment conjuguer rapidité et sécurité. Au sommaire également, la prolongation de validité des tickets resto jusqu'à septembre 2021, le rapport du ministère de l'Éducation sur la mort de Samuel Paty, une principale de collège irréprochable des services de police défaillants, et Dominique Strauss-Kahn qui annonce qu'il va reprendre la parole au moment où un documentaire événement est programmé sur Netflix.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
10 jours de travail par mois au SAMU social, une semaine de service pour 2 semaines de repos pour les chauffeurs du maire et des autres élus. Ça se passe à Marseille et ce ne sont que quelques exemples d'un système, disons, très généreux pour les employés municipaux. Système étrillé par le parquet national financier qui, après 4 ans d'enquête, demande le renvoi en justice de l'ancien maire Jean-Claude Gaudin et de 6 hauts fonctionnaires pour détournement de fonds publics. Stéphane Frangy.
Oui, et il le fait en s'appuyant sur un inventaire de 150 pages, révélation du journal La Provence, qui cite bien d'autres exemples de dérives, comme à la grande bibliothèque de l'Alcazar, près du Vieux-Port. Le jour de l'inspection, les responsables ne sont pas en mesure de dire quels agents sont présents, beaucoup manquent à l'appel. L'un d'eux confie que tout le monde ne respecte pas le temps de travail prévu et que certains profitent de la situation, mais sont protégés en haut lieu. Le parquet financier pointe également un système d'heures supplémentaires indues, notamment au secrétariat général, avec un forfait mensuel de 25 à 36 heures supplémentaires pour compenser les bas salaires. Le préjudice est estimé à plus d'1 million d'euros par an. Les explications données au moment des investigations reposent sur un système ancien, subi une inaction de peur de faire face à des conflits sociaux d'envergure. Jean-Claude Gaudin aurait pour sa part contesté toute négligence dans sa gestion municipale.
Stéphane Frangy, l'un des correspondants d'Europe 1 à Marseille. La crise du Covid avec 2 records absolus hier. Aux États-Unis, près de 3000 morts en une journée. C'est un 11 septembre chaque jour, titré hier un journal américain, avec des hôpitaux submergés dans les 4 États les plus peuplés, Californie, Floride, New York et Texas. Journée noire aussi en Italie, qui a compté près de 1000 morts en 24 heures. Le Premier ministre Giuseppe Conte annonce l'interdiction des déplacements entre régions à partir du 21 décembre et, comme en France, la fermeture des pistes de ski jusqu'en janvier. En France, encore plus de 300 morts hier, mais la décrue se poursuit dans les services de réanimation. Pour les vaccins, dont la campagne va démarrer début janvier auprès des résidents des EHPAD et de leurs soignants, 1 million de personnes, Jean Castex a promis hier sécurité et transparence, mais des élus, des ONG demandent aussi la transparence financière sur les contrats que l'Union européenne a passés avec les labos. Et pour l'instant, Isabelle Auris, ce n'est pas encore le cas.
Non, les 6 contrats conclus à ce jour sont ultra confidentiels. Tout ce qu'on connaît, c'est le nombre de doses précommandées à chaque labo, en tout 1,4 milliard, et le montant de l'enveloppe débloquée par l'Union européenne, 2 milliards d'euros. Mais on ne connaît pas le prix de chaque vaccin, par exemple. Les informations contenues dans ces contrats sont sensibles. Elles concernent des technologies innovantes sur lesquelles la compétition est mondiale. Mais la Commission européenne est consciente que ça peut nourrir des inquiétudes. Elle envisage donc de les montrer à des eurodéputés. Ce qu'a confirmé le secrétaire d'État Clément Beaune sur notre antenne ce matin.
Je crois que c'est nécessaire. Alors, il faut le faire dans un cadre précis parce qu'il faut comprendre aussi, et ça protège parfois d'ailleurs des entreprises européennes, qu'on ne peut pas toujours tout livrer et être les seuls, nous, Européens, à livrer des informations industrielles ou de marché qui nous protègent aussi. Mais que les élus européens vérifient ces contrats, je pense que c'est sain. Nous le soutenons et je pense que ce sera le cas dans les prochaines semaines.
Alors, les informations industrielles sont confidentielles, mais pas celles sur les essais cliniques des vaccins. C'est important. Toutes les données, volontaires par volontaires, sont examinées par les experts de l'Agence européenne du médicament. Quand elle aura donné son feu vert, en théorie dès le 29 décembre, pour le vaccin Pfizer par exemple, eh bien, ces données seront rendues publiques. Tous les scientifiques du monde pourront les décortiquer de manière indépendante.
Isabelle Horry à Bruxelles pour Europe 1. En France, une mesure qui n'a l'air de rien mais qui va rendre un grand service aux salariés et représenter beaucoup d'argent pour les restaurateurs quand ils rouvriront. La validité des tickets restaurants 2020 est prolongée jusqu'au 1er septembre de l'an prochain, Aurélien Fleureau.
Oui, pour Bercy, c'est une mesure qui va aider les restaurateurs. Elle vient prolonger les assouplissements déjà actés en juin dernier. D'abord, le plafond d'utilisation qui a été doublé de 19 à 38 euros par jour. Et puis, les tickets resto sont aussi utilisables le week-end dans les restaurants qui mettent en place de la vente à emporter, par exemple. Tout cela restera donc valable jusqu'au 1er septembre 2021 pour permettre de soutenir les restaurateurs dans la durée, dit-on au ministère de l'économie. C'est donc une bonne nouvelle pour eux, même si certains dénoncent les commissions prélevées dessus. C'est aussi une bonne nouvelle pour les salariés, notamment ceux en télétravail qui ne savaient pas forcément comment les utiliser, puisque selon les entreprises qui émettent ces tickets, type Edenred ou Sodexo, ce sont 700 millions d'euros de titres qui auront été épargnés par les Français d'ici la fin de l'année. Ces tickets, dont l'échéance arrive fin février 2021, seront également valables jusqu'au 1er septembre prochain. Ils peuvent donc être utilisés pour des livraisons de repas dans les commerces alimentaires qui les acceptent habituellement. Mais attention, ce plafond de 38 euros et l'utilisation le week-end ne concernent pas la grande distribution.
Aurélien Fleureau, merci.
Europe Midi. Patrick Cohen.
Samuel Paty, le professeur d'histoire géo assassiné, a-t-il manqué de soutien et de protection face aux menaces qui commençaient à se répandre contre lui? Ce que montre le rapport de l'inspection générale du ministère de l'Éducation, Virginie Riva, c'est d'abord le comportement irréprochable de la principale du collège.
Oui, à la lecture du rapport, elle apparaît d'un grand professionnalisme. Elle alerte très rapidement toutes les autorités lorsqu'elle se rend compte, moins de 3 jours après le cours de Samuel Paty, de la gravité des faits. Elle vient alors de recevoir le père de l'élève et l'activiste. Elle comprend que le dialogue est impossible et d'ailleurs, en sortant de son bureau, le parent d'élève tourne une première vidéo devant le collège. Dès lors, une présence policière est mise en place dans et autour du collège. Le renseignement territorial est appelé à l'aide, renseignement territorial qui, à la lecture du rapport, minimise l'audience possible du père de l'élève et de l'activiste au sein de la communauté musulmane. Erreur d'appréciation. Enfin, autre manquement, la défaillance dans la surveillance des réseaux sociaux. Ce sont à chaque fois des parents d'élèves ou des professeurs qui alertent la principale sur une nouvelle vidéo et les discours de haine qui circulent. Mais lacune aussi dans la surveillance des élèves. La propagation de rumeurs à l'intérieur du collège a été sous-évaluée, Samuel Paty devenant une cible accusée de racisme. Ce qui est enfin pointé du doigt, c'est un manque de communication en interne entre les services de l'éducation nationale. La principale aurait dû savoir bien plus tôt que le père d'élève avait déposé plainte contre un prof de son collège alors que le rectorat le sait. Manque de communication enfin entre les services du ministère de l'Intérieur et ceux de l'éducation nationale pour réévaluer le niveau de gravité des faits.
Virginie Riva, Dominique Strauss-Kahn indique ce matin qu'il va reprendre la parole sur tous les sujets, y compris sur le scandale sexuel qui a fracassé sa carrière. Il témoignera dans un documentaire en cours de tournage. Annonce de DSK au moment où Netflix programme, à partir de lundi, une autre série documentaire centrée sur l'affaire du Sofitel, 10 ans après l'arrestation de l'ancien ministre à New York pour le viol présumé de Nafissatou Diallo. Série intitulée Chambre 2806 et résultat d'un travail colossal. Margot Barallon.
Oui, 2 ans et demi d'enquête et de tournage. 24 personnes interviewées au total, dont des enquêteurs qui n'avaient jamais pris la parole publiquement. Netflix a même réussi à convaincre Nafissatou Diallo.
J'avais très peur. Je lui ai dit d'arrêter. J'ai essayé de le repousser, de m'enfuir.
Dominique Strauss-Kahn, lui, a longuement hésité avant de décliner et d'envoyer ses avocats.
La question que je pose, c'est était-ce une suite fortuite d'événements? Ou était-ce un coup monté?
Alors, pas de grandes révélations ici, mais en alternant images d'archives et interviews, la série examine méthodiquement toutes les zones d'ombre de l'affaire. Le réalisateur Jalil Lesper, dont c'est le premier documentaire, voulait d'abord couper court à toutes les théories d'un complot contre DSK.
C'est le type d'affaire où tout le monde a son point de vue ou a entendu qu'on a dit quelque chose. Dès le départ, on s'est dit qu'il fallait être le plus objectif possible, clarifier des faits. Et je trouvais que c'était important d'avoir un peu de perspective. Il y a une analyse aujourd'hui qui est possible sur l'évolution de notre société aujourd'hui.
Car Jalil Lesper en est persuadé, l'affaire du Sofitel a bien été l'étincelle du mouvement MeToo.
Margot Barallon. Football, Vieira limogé à Nice après 5 défaites d'affilée. L'entraîneur est démis de ses fonctions et remplacé par son adjoint Urcea. Patrick Vieira n'aura passé que 2 ans à l'OGC Nice. Le handball, avec les championnes d'Europe qui vont tenter de défendre leur titre, les joueuses de l'équipe de France sont au Danemark pour disputer l'Euro dans des conditions sanitaires ultra strictes. C'est d'ailleurs la première grande compétition internationale depuis le début de la pandémie. Un Euro qui a failli ne jamais avoir lieu, la Norvège ayant jeté l'éponge il y a 3 semaines, laissant le Danemark seul organisateur, Marguerite Lefebvre.
Oui, alors l'avantage, c'est qu'en quittant leur hôtel tout à l'heure pour rejoindre la salle, les joueuses de l'équipe de France n'auront pas le temps de souffrir du froid glacial ressenti dans le Jutland du Nord. Elles passeront de leur hôtel au bus direction la salle. Voilà, ce sera le quotidien un brin austère des handballeuses pendant cet Euro, qui ne ressemblera à aucun autre pour la pivot des Bleus, Béatrice Edwige.
Habituellement, on est une équipe quand même qui aime beaucoup sortir. Quand je dis sortir, c'est aller se promener, visiter, marcher, acheter des vêtements, voilà. Et ça, je pense que pour nous, ça peut être peut-être un tout petit désavantage.
Pendant près d'un mois, les Bleus feront partie de la bulle rouge, bulle hermétique dans laquelle se trouvent les équipes, leur staff et les organisateurs. Pas un contact de plus pour cette compétition confinée. Et pour éviter la déprime, il y a l'entraide, l'esprit d'équipe incarné par la gardienne Laura Gloser.
Pendant une compétition, je suis vraiment très casanière. Je bosse énormément dans la chambre, la vidéo, tout ça. Justement, ça sera à celles qui sont assez casanières d'apporter ce petit plus-là.
Aux casanières, donc, d'aider leurs coéquipières, tout cela évidemment au milieu des tests Covid. Un test tous les 3 jours, c'est la condition obligatoire pour mener cet Euro jusqu'à son terme.
Voilà, c'était Marguerite Lefebvre sur cet Euro de handball qui commence ce soir. Premier match pour l'équipe de France à 18h15. Le temps, Anissa Haddadi. Eh bien, c'est un temps dont vous allez me faire la surprise, car je n'ai absolument aucune idée, mais je crois qu'il y a une perturbation qui va revenir, hein, c'est ça.
C'est ça, et nous avons plusieurs départements en vigilance orange. Patrick, les Hautes-Alpes sont en vigilance orange neige, effectivement. Nous attendons près de 80 cm de neige du côté des Écrins cet après-midi. La Corse du Sud est placée, elle, en vigilance orange, pluie, inondation. Cet après-midi, le temps est donc très pluvieux sur la façade est et jusqu'en Corse. Attention, le tonnerre gronde assez fort sur l'île. Le temps est très agité et c'est un temps qui va se généraliser sur tout le pays. Il n'y a finalement que sur la région parisienne, la Bourgogne et le centre que le temps sera sec et ensoleillé cet après-midi. Les températures, comptez 5 à 10 degrés sur l'ensemble du pays. 5 à Strasbourg, 6 à Saint-Etienne, 7 à Lille et Clermont-Ferrand, 8 degrés pour Paris et Besançon, ce sont des températures de saison. 10 degrés en Avignon, 11 à Nîmes et jusqu'à 15 degrés pour Ajaccio. Allez, on jette un coup d'œil très très rapide sur le week-end, Patrick. Samedi, si vous habitez entre la Normandie et le Pays Basque, restez à la maison, sortez les jeux de société. Et pour dimanche, c'est dans toute la France qu'on va rester à la maison.
Merci beaucoup Anissa.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Dans un instant, les vaccins, rapidité et sécurité. On pose la question au professeur Christian Bréchaud, ancien patron de l'INSERM et de l'Institut Pasteur, invité d'Europe Midi dans 2 minutes.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour Christian Bréchaud.
Bonjour, merci.
Professeur de médecine, virologue, hépatologue, vous avez notamment travaillé sur les hépatites à l'origine des cancers du foie. Vous avez dirigé l'INSERM et l'Institut Pasteur. Vous présidez aujourd'hui le Global Virus Network, un groupe d'échanges et de propositions de scientifiques et virologues du monde entier. Et nous voici un an après l'apparition d'un virus inconnu avec un vaccin, plusieurs vaccins disponibles pour des campagnes de masse. Que penser d'une telle célérité qui n'a aucun précédent dans l'histoire de la médecine?
Absolument. Je pense que ça a été une surprise heureuse, il faut le dire. Et je dis d'ailleurs que personnellement, je ne pensais pas que les premiers vaccins auraient l'efficacité qu'on nous a annoncée. Donc tout ça est très bien. Je pense que c'est dû à un effort vraiment gigantesque, à la fois des académiques, des industriels, des gouvernements. Et il y a beaucoup de choses très très positives également dans la collaboration entre scientifiques que je vois dans le Global Virus Network et à University of Florida. Maintenant, bien sûr, on va y venir. Il y a également beaucoup de choses sur lesquelles il faut faire attention et beaucoup de prudence. Mais on a eu une avancée vraiment spectaculaire.
Majeure et sans précédent. Ouais. Comment être assuré de la sécurité de ces vaccins? Est-ce qu'on a suffisamment de recul sur les effets de produits qui viennent tout juste d'être mis au point?
Alors, il y a une chose qui est très importante pour votre question, c'est de comprendre que ça va très vite et je comprends très très bien les questions qu'on peut se poser sur de se demander mais est-ce que ça va pas trop vite? mais la manière dont ces vaccins sont actuellement évalués n'est pas différente de celle qui ont été utilisées pour évaluer les autres vaccins. Ce qui est différent, c'est le calendrier et le fait que ces examens ont été placés en absolue priorité. Ça, c'est un point vraiment très important. Autrement dit, quand les agences réglementaires vont donner leur avis, parce qu'on ne peut pas bouger avant que les agences réglementaires aient donné leur avis, eh bien, leur modalité d'examen des dossiers aura été le même que pour un autre vaccin. On aura 2 mois de recul, c'est la loi pour ce genre de choses. Ça voudra dire beaucoup de choses. C'est-à-dire que si les agences confirment, on a des vaccins qui n'ont pas donné beaucoup d'effets secondaires en dehors des effets habituels, quelquefois sur les points d'injection, des choses comme ça. Maintenant, après, bien sûr que comme pour tout vaccin, là, c'est pas différent. Dans les années qui viennent, quand on se met à vacciner des nombres très importants de personnes, on peut jamais exclure. Mais on a pour l'instant des indications de sécurité qui sont bonnes.
Oui, on va revenir sur les procédures, ouais. Mais il y a tout de même une nouveauté aussi importante. C'est une technique nouvelle en tout cas pour les vaccins, l'ARN messager, qui, comme son nom l'indique, est porteur d'un message pour notre système immunitaire. On est sûr que c'est inoffensif?
Alors, je pense que oui. Grâce à votre question, je voudrais dire une chose, parce que quelquefois on dit oui, mais alors c'est les ARN, etc. Est-ce qu'on va pas modifier la cellule? Est-ce qu'on va pas intervenir le gène, etc. Non, faut bien comprendre. Un virus, c'est une particule qui circule avec des protéines et puis son code génétique qui lui permet de coder pour ces protéines. Ce qu'on fait dans la vaccination ARN, c'est qu'on injecte directement dans la cellule le code génétique du virus. On ne change rien, n'a rien à notre code génétique. Et simplement, la cellule fabrique la protéine du virus et ça fait que notre organisme répond en faisant des anticorps et une réponse cellulaire et nous protège. Alors, est-ce qu'il y a des problèmes de sécurité? Pas plus que pour d'autres procédés vaccinaux. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il fallait l'évaluer de façon soigneuse, c'est ce qui a été fait. Il faudra continuer. Et là, on est tous d'accord, et c'était le message hier d'ailleurs d'Alain Fischer dans la conférence de presse. On est tous d'accord.
Le nouveau monsieur vaccin du
gouvernement. Voilà, exactement. Il faudra qu'on ait une surveillance attentive. Et d'autre part, ça rend très logique, je trouve, et d'ailleurs c'est dans le monde entier comme ça, de commencer par les personnes qui en ont le plus besoin.
Je reviens sur la procédure. Comment se fait-il que l'autorité de santé britannique ait donné son feu vert en premier au vaccin Pfizer, alors que l'Europe et les États-Unis continuent d'étudier les données du labo?
Je dois vous dire, sincèrement, je ne suis pas très traumatisé par une différence de 15 jours. Alors, est-ce qu'il y a un peu de politique dans les effets d'annonce, etc.? Malheureusement, on a vu que sur ces vaccins, ça pouvait jouer dans certains cas. Pour moi, ce qui est important, c'est que moi, j'ai confiance dans ces autorités réglementaires. Je le dis très sincèrement, je me ferai vacciner personnellement, et parce que ce sont des gens qui sont indépendants avec des scientifiques. Alors, pourquoi ils ont pris la décision d'annoncer ça? Ça, c'est pour ça qu'on adore les Britanniques et qu'ils ont toujours des relations un peu différentes avec l'Europe et le reste du monde.
Ils sont mis en procédure d'urgence pour une autorisation temporaire, ce qui ne sera pas le cas de l'autorité européenne.
Voilà, je vais vous dire. À l'arrivée, ce qui est important, qu'on soit vacciné le 15 décembre, le 25 ou le 3 janvier, ce qui est important, c'est qu'on ait, et on l'aura, un avis définitif, clair, de ces autorités réglementaires. Tant qu'on n'aura pas ça, on ne bouge pas, mais on se prépare à l'avance.
Et l'avis de ces autorités ne sera pas une formalité?
Ah non, ça c'est clair.
L'agence a donné un calendrier, l'agence européenne, pour promettre un verdict, un feu vert éventuel avant la fin décembre. Donc la clé de la confiance, c'est la transparence.
Ah oui, ça c'est clair. C'est clair. Il faut dire, justement, moi je pense qu'on va passer par plusieurs phases. Et c'est très bien. Si vous voulez, on ne sait pas quelle est l'efficacité du vaccin chez les personnes âgées. Bon, on commence à vacciner les personnes âgées, ce qui est logique. Très bien. On va avoir des premiers résultats vers le printemps et on va à chaque fois évoluer en fonction de ça. Il faut savoir aussi, c'est très important, qu'il y a d'autres vaccins. Ce n'est pas du tout la fin de l'histoire, c'est le début de l'histoire. Vous avez d'autres vaccins qui sont en train d'arriver, qui pourraient déclencher des réactions d'immunité qu'on appelle cellulaires, peut-être donc avec des durées de protection plus longues. Il y aura la grande question de savoir si on protège de la contagiosité.
Absolument.
Je pense que si les résultats se reproduisent, la réponse sera oui. Moi, j'ai confiance, mais encore faut-il le démontrer. Donc, on va avoir une évolution par étapes, ce qui veut dire, et ça, ça va être difficile à gérer, mais c'est fondamental, qu'on ne doit pas baisser la garde. Ce n'est pas parce qu'on a un vaccin qu'on va pouvoir relâcher sur les masques, sur la distanciation et sur le lavage des mains. Alors, c'est pas des bonnes nouvelles, parce qu'on voudrait vivre normalement. Et je pense que le diagnostic va être également un point très important.
Pour préciser ce que vous venez de dire, on sait qu'on a des vaccins qui empêchent ou qui évitent aux gens vaccinés de tomber malades, mais on ne sait pas encore s'ils permettront de casser les chaînes de contamination en rendant le virus non transmissible. Ça, on le saura dans les prochains mois, ce que vous nous dites, professeur Bréchaud. Et dans ce cas-là, si c'est validé, on pourra dire que le vaccin est la solution.
Alors, oui, absolument. Encore une fois, moi j'ai confiance sur la possibilité de casser la chaîne de transmission parce qu'il y a les virus actuels, les vaccins actuels, pardon, et il y aura les nouveaux vaccins qui vont arriver. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Parce qu'en fait, on va se retrouver au printemps avec une panoplie de vaccins qui sera plus étendue que ce qu'on a actuellement. Donc j'ai confiance, mais il faudra le démontrer, absolument.
Donc à quelques semaines de cette terrible année 2020, on peut dire que 2021 sera l'année où l'épidémie sera vaincue ?
Alors, c'est terrible de dire des choses comme ça, parce que...
Pourquoi ? Mais non, il faut donner de l'espoir quand même.
Non, ce que je veux dire, c'est que c'est faire des prédictions. Non, moi je pense que oui. Voilà, il faut répondre clairement. Je pense que oui, qu'on a le droit d'espérer ça. Mais je pense qu'il va falloir que... Vous voyez, ce n'est pas une simple crise sanitaire, c'est un changement d'époque qu'on a vécu, on le sent bien. C'est-à-dire que, pour moi, il faut que cette crise, évidemment, soit vaincue. Il y a des conséquences terribles, y compris économiques, enfin, on le sait très bien. Il faut qu'on en tire les leçons. C'est-à-dire que si simplement on dit « Ah ben écoutez, merci, et maintenant 2022, ça va être parfait », non, ça ne va pas marcher comme ça. Il faut qu'on soit, dans cette année 2021, dans une réflexion de comment on doit être mieux préparé à la suite et à différents scénarios. Mais oui, là, je pense qu'on peut vraiment espérer s'en sortir.
Vous connaissez, j'imagine, le professeur Alain Fischer, le nouveau monsieur vaccin du gouvernement ?
Très bien, c'est quelqu'un de remarquable, absolument.
Grand immunologue.
Ah oui, non, ça c'est un choix excellent et très logique, absolument.
Merci beaucoup, professeur Christian Bréchaud, d'avoir répondu à nos questions. Merci,
merci
à vous.
Merci beaucoup.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, d'autres informations. Le 13h d'Élise Dangean, puis La France bouge avec Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil. Bonne journée et bon week-end à l'écoute d'Europe 1.